France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une alimentation qu'on a choisie douce ce midi, comme une cerise sur le gâteau de l'année, comme un clin d'œil festif en compagnie d'une jeune pâtissière auréolée du titre de meilleure chef en 2019. 5 ans après, elle a été choisie pour réaliser la carte des pâtisseries de l'Eurostar. Elle est la marraine de l'Institut Curie et elle continue d'envoyer balader l'idée bien ancrée selon laquelle la pâtisserie repose sur le sucre, le beurre et la crème. Jessica Prelpato, bonjour.
Bonjour.
Pourtant petite, en bonne fille de pâtissier boulanger, vous avez dû en manger de la crème, du beurre, du sucre.
Beaucoup, ouais. Mon père désucrait déjà pas mal, mais oui, j'en ai mangé beaucoup. Ouais.
Votre père désucrait?
Ouais, il enlevait beaucoup de sucre déjà.
Ah, c'est peut-être ça
à
alors.
À cette période, oui, peut-être. Ça m'a peut-être donné cette envie aussi d'avoir cette pâtisserie. Mais c'est vrai qu'il désucrait beaucoup. Il enlevait pas le gras, mais il désucrait, oui.
Parce que vous, Jessica Prelpato, ayant grandi quand même avec donc des parents pâtissiers boulangers, vous n'avez pourtant pas eu toujours envie d'être pâtissière. C'était pas tomber dedans dans la marmite, mais sans avoir envie de continuer ça.
C'est ça, pas du tout. Du tout, du tout. Pour moi, c'était un super métier, mais à côté de ça, on voyait pas spécialement mes parents, c'était quand même une pâtisserie boutique, donc Noël on le fêtait pas forcément avec eux non plus, donc c'était le cadre qui me plaisait pas. Mais en tout cas, non, je voulais pas du tout être pâtissière, j'ai toujours rêvé d'être psychologue pour enfants. Aujourd'hui je continue plein de formations à côté et j'ai énormément de livres chez moi, plus de psychologie que de pâtisserie. Mais c'est toujours un métier qui me plaît énormément, mais c'est vrai que non, malheureusement j'en ai pas fait mon métier final. Ouais.
Est-ce que ça explique peut-être d'une certaine façon le fait que vous soyez marraine de l'Institut Curie aujourd'hui?
Ouais, j'essaye d'être proche. Là, j'ai fait un atelier hier avec des enfants. J'essaye d'être proche, en tout cas, des enfants. C'est vrai que l'Institut Curie, c'est important aujourd'hui parce que le cancer touche beaucoup de monde, nos proches, notre famille. Mais quand ça touche les enfants, les adolescents que j'ai vus hier aussi, c'est non seulement c'est touchant, mais ils sont extrêmement courageux. Ils ont beaucoup moins de stress que nous, on peut avoir en étant adulte. Et ils ont une force et un courage de tout surmonter. Et je trouve ça fascinant. Pardon, j'en parle, je suis encore un peu...
Oui, j'entends.
Peu émue, mais c'était... Ouais.
Qu'est-ce que vous faites avec eux?
Hier, on a fait des sablés de Noël. Donc j'avais fait des gâteaux et puis j'avais amené des glaces royales. Donc ils les ont décorés de plein de couleurs différentes. Donc c'était hyper sympa. Et puis j'avais fait des petits trous. Donc ils pouvaient mettre des ficelles pour les mettre dans des sachets. Soit ils les ramenaient chez eux s'ils rentraient. Sinon, il y a un sapin, donc ils pouvaient le mettre sur le sapin à l'Institut. Donc voilà, on a fait ça hier matin.
Vous êtes aujourd'hui marraine de l'Institut Curie, mais vous êtes aussi aux commandes. Alors, je ne sais pas comment on dit vous. C'est vous qui dressez la carte de dessert dans un grand hôtel. Ce n'est pas la première fois que vous faites ça, parce que vous le faites pour un goûter. Vous l'avez fait également à Londres pendant longtemps. Vous avez ouvert un salon de thé, Jessica Prelpato. Et là, c'est un goûter que vous proposez dans un grand hôtel, dans un hôtel chic, 5 étoiles, le Saint-Régis, à Paris.
Oui,
ça veut dire quoi, faire un goûter pour un grand hôtel?
Faire un goûter, pour moi, c'est apporter une pause, j'allais dire sucrée. Oh là, je peux pas dire ça, mais en tout cas, c'est apporter une pause de dessert dans l'après-midi. Et moi, j'adore ça. Le souci, c'est que c'est vrai que par rapport à Londres, c'est pas hyper commun de faire des goûters en semaine ici à Paris. Ce que je trouve énormément dommage, parce que je me dis, on peut très bien faire des... Aujourd'hui, on a des sociétés qui viennent, qui font leur repas d'entreprise en mode goûter. On a eu des mariages aussi, les samedis, c'était hyper sympa. Donc, je trouve que c'est assez original, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins connu. En tout cas, on marche très bien le week-end. La semaine, c'est vrai qu'il y a moins de demandes.
Oui, parce que c'est vrai qu'on se dit, quand on veut un goûter, soit on le prend chez soi, soit on va s'acheter justement dans une pâtisserie, boulangerie, un gâteau, mais aller s'attabler, qui plus est alors dans un hôtel, bon, je suppose qu'il y a un certain prix, c'est un hôtel d'un certain standing, mais pour prendre un goûter réalisé par une grande chef, c'est peut-être effectivement une drôle d'idée.
Oui, mais moi je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Moi je le fais, j'essaye de le faire en tout cas régulièrement pour aller voir mes copains pâtissiers et puis goûter un petit peu aussi ce qui se fait à gauche à droite. Mais non, je trouve ça intéressant. C'est une autre façon de... Alors oui, en effet, oui, c'est 65 €. Donc je pense que c'est le prix d'un menu de restaurant. Donc je conçois que le prix soit élevé.
Après on mange pas le soir.
Après
peut-être.
Je pense pas. Après ça dépend. Après c'est pas comme à Londres. On n'a pas toute cette partie salée. On est vraiment basé que sur une partie sucrée. J'ai vraiment enlevé ce côté côté salé parce que je trouvais que ça prenait beaucoup trop de place et après les gens appréciaient moins les desserts. Et après, oui, c'est vrai que c'est justifié parce que on est dans le 8e, qu'on a une magnifique équipe, on travaille beaucoup avec des petits producteurs. Donc je vais pas dire que le produit est plus cher, mais la livraison, c'est un peu catastrophique, quoi. Les prix sont assez élevés. On paye plus cher des fois la livraison que le produit en lui-même, ouais.
Alors vous disiez, oh sucré, non, je peux pas dire ça. Et en même temps, j'entendais que vous êtes une pâtissière dans un grand hôtel. Ça me fait penser à un son qu'on a trouvé pour vous.
C'est quelque chose d'assez important dans l'hôtellerie, le dessert. C'est ce qui clôture un repas, ce qui doit être le plus agréable pour le client, pour lui laisser le meilleur souvenir.
Oui, mais pour vous?
Pour moi? Ben, à vrai dire, je n'aime pas tellement les desserts. Parce que j'en suis écœuré. À force d'en faire, j'en suis écœuré. À force de, par exemple, chou chantilly, de génoise, mocha, tout ça, bon, ben, je n'en mange pas volontiers. Pourquoi? Parce que j'en fais trop et ça m'écœure à force de le faire.
C'était un pâtissier dans un grand hôtel dans les nuits magnétiques de France Culture en 1978. Okay. J'étais après le bateau.
J'allais dire, c'est quelqu'un du Sud, j'entends un petit accent.
C'est possible aussi. Est-ce que c'est aussi parce que vous avez trop fait de desserts sucrés? Que vous êtes écœuré par le sucre, que vous n'avez plus envie de faire du sucre, ou c'est beaucoup plus un principe des valeurs d'aujourd'hui que vous défendez?
Non, c'est pas du tout ça. Alors oui, en effet, quand j'ai fini chez Monsieur Vardon, c'était en 2014, je lui ai dit, j'en peux plus en fait faire des biscuits, des crèmes, des mousses. En fait, ça me saoulait. J'avais plus du tout envie de faire de la pâtisserie. J'avais en tête de reprendre mes études, de reprendre des études de psychologie pour me relancer dans un... changer totalement de métier. Et Monsieur Vardon m'a dit, va voir Monsieur Ducasse, ce qu'il fait, c'est assez exceptionnel. Il travaille vraiment les fruits, il travaille tout ce qui est des sucrés, les condiments, les céréales, etc. Il me dit, va voir, essaye quand même. Et puis, ça a été une vraie révolution pour moi parce que c'est une nouvelle pâtisserie, c'était une nouvelle approche. On enlevait tous ces trucs, ces mousses, ces crèmes, enfin, qui pour moi n'avaient pas forcément de sens, mais j'avais vraiment envie d'autres choses.
En fait, c'est pas les gâteaux que vous aimez, quoi.
Non, mais j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais c'est hyper violent parce que des fois on me propose plein de gâteaux dans des pâtisseries, dans des restaurants, on me fait tous les desserts. Mais en fait, moi, je suis très très salée et c'est vrai que les desserts, des fois, j'en prends même pas. Donc, je prends vraiment pour accompagner et pour pas du tout vexer les pâtissiers parce que c'est pas du tout contre eux. Mais c'est vrai que je suis pas une grande fan de pâtisserie.
Bienvenue à la pâtissière. Bon, c'est vrai que vous êtes restée pendant 7 ans dans le restaurant d'Alain Ducasse au Plaza Athénée, un autre grand hôtel avec Romain Médère au fourneau, c'est qui ça. Lui était le chef du salé, on va dire. Ça a donné lieu à un livre en 2018, Desséralité, bien entendu, en écho à la naturalité défendue par Alain Ducasse. Et là, vous recensez dans ce livre 45 desserts créés au Plaza Athénée. C'est vrai que quand on parle de vous, quand on vous entend parler, quand on lit des choses sur vous, Jessica Pralpato, souvent, on entend que pâtisserie, c'est pas trop votre truc, gâteau, c'est pas trop votre truc. Vous faites plutôt des desserts cuisinés.
C'est ça,
vous revendiquez. Alors, c'est quoi un dessert cuisiné?
Alors, maintenant, j'essaye de le mettre un peu moins, parce que c'est vrai que dans l'Eurostar, on peut pas forcément cuisiner à la minute, mais même au goûter, c'était important pour moi de mettre un service comme au restaurant, donc d'avoir des desserts qui sont dressés à la minute. Des coins, là, par exemple, qui sont pochés le matin et qu'on vient brûler à la minute avant de les déposer sur l'assiette. Tout est dressé. On a des sorbets, chose qui n'existait pas forcément. On voyait pas beaucoup, en tout cas. Je dis pas que c'est nous qui l'avons inventé, parce qu'on n'invente rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se voyait pas beaucoup d'avoir des goûters avec des desserts à l'assiette ou des vrais services. En général, c'est un stand qu'on vous pose et tout se passe là-dessus. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir ce côté dessert de restaurant et dessert cuisiné. Donc, des dressages à la minute, des températures différentes... vraiment avoir quelque chose un peu d'instantané.
C'est quoi la base de la bonne pâtisserie, qu'elle soit dessert cuisiné ou qu'elle soit gâteau pour vous?
Pour moi, c'est le produit.
C'est sans. Mais ça, bon mais produit. Ça, tout le monde dit ça.
Oui, mais
quand on est chef, on est.
Les gens se rendent pas de compte. Enfin, mon pâtissier, c'est le bon exemple, Théophile, parce que je lui ai fait goûter des noisettes. Nos noisettes d'Auvergne qui viennent du domaine des Kaolins. Je lui ai fait goûter des graines de tournesol qui viennent de Bosse, qui sont magiques, mais le goût est différent, elles soufflent, c'est des choses qu'on voit pas forcément, les graines de courge, les graines de tournesol. On a vraiment un produit qui est hyper quali, enfin, c'est des grosses graines qui ont énormément de gras à l'intérieur. Enfin, il y a un vrai travail au niveau du produit, mais si vous partez pas d'un bon produit, il y a rien du tout derrière, quoi. C'est une catastrophe.
Vous travaillez le goût. Beaucoup plus que le visuel, par exemple.
Oui, c'est vrai que je le mets souvent de côté. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon compte Instagram. C'est ma sous-chef pendant quasiment un an et demi qui l'a fait, Camille. Et je voulais pas du tout faire mon Instagram parce que je trouvais ça hyper moche. Alors qu'avant, j'étais très perfectionniste et il fallait que tout soit parfait, carré, enfin que ce soit vraiment nickel. Et là, de voir des desserts comme ça où il y avait plus de sens dans l'assiette. Enfin, il y avait un sens de dégustation, mais il y avait plus de sens visuel. C'était moche, c'était pas grave. Tant que tous les éléments étaient là, que c'était lisible, au final, ça, c'est ce qu'on voulait. Mais moi, j'avais vraiment du mal à le mettre en avant. Et je me rendais compte en même temps qu'on faisait une pâtisserie différente et qui était assez intéressante et surtout très, très intéressante pour nos producteurs et tout ce qu'on mettait dans l'assiette. Mais à côté de ça, non, c'était hyper moche, quoi. Et c'est venu après, au fur et à mesure, le côté brut, ça devient limite à la mode. Mais c'était pas du tout le cas en 2015. Donc, ouais, c'était un peu contraignant d'avoir ces deux facettes.
Ouais. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous faites partie, Jessica Prelpato, de cette génération réseaux sociaux, justement. Non seulement, vous avez été meilleure chef pâtissière du monde en 2019 par le World's 50 Best et un millier de journalistes, simplement, un millier de journalistes et de gourmets internationaux qui ont trouvé que vous étiez la meilleure cette année-là. Vous avez été aussi pâtissière de l'année, la même année, pour la 50e édition du Goemio. Oui. On se demande ce qu'on fait après ça. Bon, déjà, on ouvre un compte Instagram.
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà, ça c'est important. Vous faites partie, effectivement, de cette génération de jeunes chefs qui ont, parmi les pâtissiers, un très grand succès sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes pas encore parmi les 11,8 millions d'abonnés de Cédric Grolet sur Instagram ou les 3,4 de Cyril Lignac. Vous en avez quand même 100 000 à peu près abonnés sur Instagram. Nina Métayer en a 394 000. On voit que c'est quand même des chiffres considérables. En quoi c'est important pour un ou une jeune chef pâtissière d'être sur Instagram? Ça dit quoi? Vous montrez quoi à part des photos que vous trouvez en tous les cas moches? Maintenant, ça va mieux.
Oui, maintenant, ça va mieux. J'ai un super photographe.
Ça sert à quoi?
Moi, je suis pas une grande fan. Il faudrait que je fasse des vidéos. Il faudrait que je mette plus de choses. Il faudrait. Mais en fait, ça me prend beaucoup de temps. Et puis moi, je suis vraiment pas fan de ça. Je trouve qu'à la fin, on en perd notre métier. On est trop sur les réseaux et puis on n'est plus dans notre pâtisserie. En tout cas, je parle pour moi. Je vois que mes collègues y arrivent très bien. Moi, j'arrive pas à faire ça. Je peux pas. Je suis obligée de créer. Je suis obligée de goûter. Je suis obligée de voir ce qui se passe. Je suis obligée d'avancer dans un dessert. J'arrive pas en même temps à faire des vidéos. J'arrive pas à faire des photos en même temps. Là, j'avais des cynorhodons tout à l'heure. J'avais un colis énorme.
Qu'est-ce que c'est, les cynorhodons?
C'est des petites baies d'églantier.
J'arrive même pas à le dire.
On a reçu ça. C'est mon producteur Fabrice qui me l'a déposé hier matin. Et j'avais un colis entier. Et puis mon pâtissier me dit, ah, chef, vous avez pas fait de photos. Oh, je dis, bon, allez, c'est parti, il faut faire une photo, ça prend du temps, etc. Enfin, moi, c'est un truc je vais pas vous mentir, ça me saoule quand même pas mal. Donc, après, on me demande de mettre ma fille, on me demande de mettre des scènes personnelles parce que ça attire les gens. Et puis, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, j'en ai 100 000 et c'est déjà énorme, mais je ferai pas plus pour en avoir plus. Voilà. Si ça vient, c'est génial. Si ça vient pas, c'est pas grave. Après, moi, ce qui est le plus important dans les réseaux sociaux, c'est de passer, les messages que j'ai envie de passer sur les produits, sur les producteurs. Là, l'Institut Curie qui m'a demandé, mettez, parce qu'on a besoin de dons, on a besoin d'avoir une visibilité, on a besoin de dons pour les enfants, donc je le fais. Mais je suis pas hyper à l'aise avec tout ça, oui. J'ai jamais été.
Bon, oui, alors déjà, on entend bien votre tempérament.
Mais c'est important. Parce que c'est important ce qui fait marcher nos restaurants.
Ce que vous voulez, c'est trouver votre vrai métier.
Oui, c'est ça.
La base de votre... Alors, ce serait quoi? Comment vous le définissez?
Non, mais c'est juste continuer à créer comme je fais et puis à essayer de faire comprendre. Et c'est aussi le bon côté des réseaux sociaux, c'est de passer des messages et de faire comprendre aux gens qu'il y a des petits producteurs en France, qu'il y a des très bons produits en France et que tout ça, il faut pas l'oublier, quoi. Parce qu'un jour, on se réveillera où il y en aura plus. C'est marrant, c'est la conversation que j'avais avec un de mes producteurs il y a deux jours. Et il me dit, à force de travailler comme ça, c'est sûr que nous, à un moment donné, on va pas pouvoir tenir. Et c'est vrai. Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Et je me dis que si nous, la profession, on les soutient pas, mais personne va jamais les soutenir, quoi. Donc c'est, j'essaye en tout cas d'en parler. À chaque fois que je vais dans les écoles, j'explique pourquoi, quelle démarche on a. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de passer des commandes, ça prend du temps, mais c'est un vrai, enfin, moi, en tout cas, c'est un vrai bonheur de leur parler. C'est un vrai bonheur de les avoir au téléphone, de prendre de leurs nouvelles de leur famille aussi. Enfin, c'est pas que un contact. Tout ça, pour moi, c'est important et c'est ce qui fait que le produit est aussi exceptionnel aussi.
Vous n'avez pas de boutique, Jessica Prelpato?
Non. Pas d'envie?
Oui.
J'ai failli, puis j'ai loupé. Non, je me suis plantée, je me suis fait avoir par un de mes associés investisseurs. Donc, au final, j'ai un peu abandonné. Et puis aujourd'hui, non, je travaille au Saint-Régis, j'ai l'Eurostar aussi. Et là, je vais récupérer un salon de thé au Louvre. Et je me dis que voilà, je vais travailler avec un traiteur extérieur qui va développer pour moi. J'ai pas envie aujourd'hui de... Ça me fait très peur. Je trouve que ça, c'est l'avancée du métier. Puis pour l'instant, me fait un petit peu peur. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui ont des restaurants, qui ont des boutiques. Et puis voilà, je vois que c'est compliqué entre les charges, entre les salaires, entre les salariés, entre beaucoup de choses comme ça à gérer. Moi, ça me fait un petit peu peur. Ouais. Donc je suis mère toute seule, je m'occupe de ma fille, je peux pas tout faire. Je me dis que peut-être que si on était deux, ça serait différent. Mais là, je peux pas tout faire, c'est pas possible. Donc je prends le parti pris en tout cas de travailler et de déléguer à des personnes qui savent parfaitement faire. Et voilà, moi je suis à la créa et puis je me fais aider à côté pour la production.
Et faire des pâtisseries ou des desserts cuisinés, je ne sais plus comment le dire du coup.
Les deux.
Pour la première classe de l'Eurostar, puisque vous avez été effectivement choisie pour être la chef pâtissière de l'Eurostar en classe business, ça vous fait pas peur? Alors que ça a énormément de contraintes de cuisiner pour un train.
Au début, j'avais dit non. Je ne vais pas vous mentir parce que je me suis dit je ne vais pas du tout pouvoir vérifier la production. Je ne sais pas comment ça va être traité. Moi qui suis quand même très petit producteur, j'avais vraiment envie que ça continue. Parce qu'on vient souvent vous chercher, parce que vous avez une image qui est intéressante pour beaucoup de sociétés aujourd'hui, forcément. Quand vous êtes dans le développement, tout ce qui est développement durable, dans toute cette recherche de RSE. Mais à côté de ça, moi, j'avais pas du tout envie d'avoir qu'on utilise mon image et qu'à côté, il n'y ait rien qui soit fait. Donc ça, c'était très important pour moi, en tout cas, et c'est ce que continue de respecter totalement Eurostar là-dessus. Mais c'est vrai que le fait de déléguer, de donner des recettes et de ne pas être à la production et de ne pas pouvoir aller vérifier régulièrement, parce que la mine de rien, il y en a une partie qui est en Bourgogne, une autre partie qui est à Londres, ouais, c'est un peu compliqué de faire ça. Et puis moi, je suis quand même chez des desserts qui sont bien spécifiques, et là, il faut adapter à la clientèle du train qui est quand même... qui n'a pas spécialement envie de manger des trucs qui sortent de un peu de nulle part. Ils ont quand même envie d'avoir des choses réconfortantes, mais que ce soit quand même original et généreux. Donc
comme
il faut s'adapter. Ouais.
Un financier au chanvre et à la mandarine réalisé avec du miel de châtaignier, un entremets yaourt et verveine citronnée, des épices, le poutchouri, vous allez nous en parler, les boutons de cannelier ou la cardamome verte. On est très loin de ce qu'on va entendre.
Bon. Ah là, alors du coup, elle est molle, hein?
Pas molle, non, vous allez voir. Là, voilà. Eh bien, ça y est, maintenant, nous avons la crème avec laquelle nous allons fourrer le gâteau.
Mousse est péjoratif et onctueux, c'est...
Il n'y a rien à faire.
Ah oui, il n'y a rien à faire, il ne veut pas se...
Ah non, il fait trop chaud.
Ça, c'est...
Ça ne fait rien, nous allons faire différemment. Alors, 16 œufs pour 1 kilo, n'est-ce pas, de sucre, 1 kilo de farine. Voyons.
On va mettre notre crème.
On va mettre la moitié de la crème, n'est-ce pas, sur la première épaisseur. Voici. Toujours remettre un tout petit peu de parfum, n'est-ce pas.
Cette période, il faut se réchauffer. Vous allez mettre votre deuxième couche.
Deuxième couche, alors là, je vais mettre tout ce qui reste.
Bien sûr.
Dans le petit poêlon.
Je ne sais pas si la quantité de crème que vous aviez faite était... proportionnel à la taille de votre gâteau.
Oui. Vous savez, c'est riche, hein.
Ça, oui.
Il y a beaucoup de marron, de beurre, etc.
Oui,
là-dedans. Alors c'est riche, il ne faut pas trop abuser, d'autant plus que nous aurons ensuite la meringue qui elle aussi va devenir une espèce de crème qui va intéresser ce gâteau et par conséquent se manger en même temps.
Les talents, ça se...
Voilà.
Oui, alors on risquerait d'être un peu écœuré.
Il ne faut pas qu'un gâteau soit écœurant.
Non, jamais. Ça, c'est sa première qualité.
Un gâteau ne doit jamais être écœurant. Alors là, c'est une archivina de 1956. Le 24 décembre 1956, le gâteau de Noël de Raymond Oliver, avec Catherine Langeais à ses côtés, qui lui pose ses questions. Ça n'est pas votre pâtisserie à vous. On est en 2024, bientôt 2025. Ce serait quoi le dessert de l'année 2024, Jessica Prelpato?
C'est une bonne question parce que moi je fais pas de bûches, mais si j'avais une boutique, parce que j'avais dessiné du coup pas mal de bûches en avance, j'allais faire une mousse avec des baies. Moi je suis une grande fan de baies et de céréales, mais j'aurais fait ça, une mousse avec des baies, avec une petite un petit biscuit en mode de tuile à base de farine. On est très très loin de ce qu'on a entendu d'un kilo de beurre et d'un kilo de crème dedans, mais non,
c'est plus possible ça.
Non, je pense pas. Alors après, moi j'ai travaillé dans des boutiques dans le sud-ouest quand j'ai appris vraiment la base de la pâtisserie et c'était encore cette crème au beurre très grasse, etc. Donc ça se fait encore. Je vous avoue que moi c'est peut-être la bûche que j'aime toujours encore, c'est la bûche à la crème au beurre. Enfin pour moi c'est...
Bah c'est quand même ça qui est réconfortant en plein hiver, non?
C'est vrai. Mais non.
On a besoin de se réchauffer, disait Catherine Langeais.
Je pense que ça se mange moins. Après, je suis un peu. Je trouve que vivre à Paris, on est un peu coupé de tout ce qui se passe à côté. Donc, chez nous, enfin, moi, quand je rentre dans le sud-ouest, il y a toujours la bûche crème au beurre classique, la rose pour la Grand Marnier. Enfin, ça change pas et c'est très bien parce qu'on a quand même besoin d'avoir des classiques et de pas les oublier. Mais c'est vrai qu'à Paris, on est un peu déconnecté parce qu'on a plus la bûche classique. On a une bûche en forme de coquillage, une bûche en forme de voiture. Enfin.
Donc, quand même, vous aimez rentrer chez vous dans le sud-ouest pour manger. La bûche au,
tout à fait, oui.
Au beurre.
Exactement.
Et à la crème. Que font encore vos parents?
Non, ils ont vendu la pâtisserie il y a un petit moment quand même.
Oui, mais ils peuvent la faire pour la famille.
Ah non, je pense que ma mère serait pas hyper contente que mon père prenne toute la cuisine.
Bon, on arrête là les questions.
Mais bon, faut essayer.
On arrête là les questions familiales. Vous aimez les baies, vous aimez les céréales. Pour autant, vous ne faites pas une pâtisserie végétale.
Non, je fais pas de pâtisserie végétale parce que j'ai pas envie de mettre de côté qui que ce soit. Et puis, non, j'ai déjà essayé un petit peu de travailler avec de l'eau de pois chiche, des choses comme ça, mais non, c'est pas du tout mon univers, ça m'éclate pas vraiment. Et puis en plus, j'ai des producteurs de lait et de crème que j'ai pas envie de lâcher non plus, donc voilà, je travaille avec la ferme du Carbastar, avec Jean-Marie depuis très longtemps, qui me fait du lait cru qui est incroyable, de la crème crue qui est top, donc voilà, j'ai pas non plus envie de tout mettre de côté, mais je sélectionne en tout cas jusqu'au bout tous les bons produits.
Qu'est-ce que vous avez envie, Jessica Prelpato, de provoquer chez celui ou celle qui goûte vos pâtisseries? Est-ce que vous avez envie de les réconforter précisément, de les contenter, de les choyer, ou au contraire de les surprendre, de les bousculer, de les provoquer même peut-être, ou de faire découvrir des choses différentes?
C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça.
Après, et c'est possible les deux à la fois?
Oui, pour moi c'est possible. Après, ça dépend du contexte. Au Plaza Athénée, on aurait pu faire un dessert 100% pamplemousse. Les gens auraient adhéré ou pas, mais voilà, ils étaient dans le concept du restaurant, dans cette naturalité, dans ce côté très, très brut. Et limite un peu too much, on va dire, de tout ce qu'on faisait parce qu'on le développait jusqu'au bout. Ça allait passer, alors qu'aujourd'hui, au Saint-Régis, il faut adapter un petit peu pour que ce soit quand même agréable. Mais on peut rester dans cette amertume qui est quand même assez puissante dans le pamplemousse. Et à contrario, vous mettez du pamplemousse corse sur Eurostar. Je me suis pris au moins 20 commentaires. On a enlevé le dessert parce que je me suis dit, ça, c'est pas possible.
Mais vous disiez même au Plaza Athénée, à vos débuts, vous preniez quand même les choses à travers la figure. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des remarques pas très agréables, que ça vous gênait pas parce que vous aviez justement envie de surprendre, de changer les choses, de faire différemment. Comme si vous aviez toujours un temps d'avance. Je vous demanderai d'ailleurs ce que sera le dessert 2025 tout à l'heure. Donc, c'est pas gênant pour vous, finalement, de...
Non.
De bousculer un peu les goûts.
Non, parce que je bouscule. Enfin, c'est ce que j'essayais d'expliquer aux clients, c'est qu'on ne bouscule pas vraiment les goûts, on redonne juste le vrai goût aux choses. Le pamplemousse, c'est amer. Enfin, c'est le pamplemousse qui est archi sucré. Pour moi, c'est pas du pamplemousse. Ouais. C'est qu'il y a un souci à un moment donné. Une tarte au citron meringuée, si vous sentez pas de l'acidité et que vous sentez que du sucre, quel est l'intérêt de manger une tarte au citron? Enfin, il faut juste redonner aussi le bon goût aux bonnes choses et le produit. Voilà, qu'est-ce que c'est le produit? Aujourd'hui, on essaye juste de pas dénaturer totalement le produit. Et un pamplemousse, c'est amer, c'est acide, c'est dérangeant aussi quand on le mange. C'est pas le côté bonbon hyper sucré qu'on peut trouver dans des boissons, dans des choses comme ça. Donc non, ça me dérange pas de redonner le vrai goût aux choses, même si j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit comestible entre guillemets, que ce soit
quand même
trop amer et pas trop acide.
Mais bon.
Mais que ce soit quand même ce soit bon et que ce soit intéressant au niveau du goût et que les gens aient envie de regoûter des desserts comme ça avec des produits qu'on n'utilise pas forcément ou vers lesquels on va pas. Alors, comme vous, le kaki aussi, par exemple.
Justement, vous, votre produit, Jessica Prelpato, c'est le fruit qui est votre matière première. Comment on fait en hiver quand on trouve moins de fruits? Bon, c'est vrai, on trouve quand même des pommes, des poires, des bananes, des coings, des châtaignes, des agrumes, des kiwis, des kakis, des grenades. Il y en a un certain nombre. Avec tout ça, on peut faire de la bonne pâtisserie.
Oui. L'année dernière, j'avais fait une tarte au kaki. Donc je me suis dit on va y aller jusqu'au bout, donc on avait fait une tarte au kaki, et les kakis c'est pas du tout un produit, tout le monde me dit oh non mais c'est pas possible, on avait fait un tarte au kaki, dessert à l'assiette au kiwi, on avait tout gagné quoi. C'est vraiment ce que les gens aiment pas forcément, mais encore une fois, et je le remets devant tout, mais c'est vrai qu'avec des bons produits on arrive à faire des super choses. Donc j'ai un producteur qui s'appelle Yannick Colombier qui est dans le Tarn-et-Garonne qui me fait des kiwis jaunes qui sont juste incroyables, jaunes, rouges, verts. Donc on mettait tout ça dans l'assiette, c'était vraiment très bon avec des graines de courge, c'était vraiment exceptionnel. Et après, on faisait. C'est ça qui est énorme, c'est que je dis que c'était exceptionnel, mais en soi, le dessert, ok, c'est, c'est bon. Il y a du travail dessus pour sublimer. Mais le produit en soi, ça fait tellement tout le dessert que des fois, on n'a pas forcément grand-chose à faire dessus, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ce dessert, ouais, cette tarte au kaki, du coup, on mettait vraiment des morceaux de kaki entiers sur la tarte. Et les gens ne savent pas forcément comment le manger, comment le travailler. Parce que le kaki, à part le manger soit congelé, décongelé ou même congelé comme un sorbet, on ne peut pas vraiment le cuisiner. Donc voilà, c'est une découverte. Alors nous, on travaille avec des tout petits kakis de Provence, pas avec les gros kakis qu'on peut trouver des fois dans certains supermarchés. Et c'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'a pas de petits producteurs à porter, qu'on est obligé de s'adapter à ce qu'on a aussi à côté. Ouais.
Le coin, c'est la première fois que vous le travaillez?
Ouais, c'était la première fois. Ouais, c'était la première fois, parce qu'au Plaza Athénée, en général, le chef Médère s'en occupait, et puis c'était au premier qui avait sorti la recette, et j'étais jamais première. Donc c'est pas grave, j'ai loupé le coin pendant pas mal d'années. Mais le coin, c'est pareil, c'est un fruit qu'il faut éplucher, qu'il faut laisser oxyder pendant, nous on le laisse à peu près 12 à 24 heures à l'extérieur, pour que vraiment le morceau de coin s'oxyde et devienne très foncé, et puis qu'il développe toutes ses arômes, dans une très belle couleur légèrement orangée, marron, et puis vraiment toutes ses arômes de coin, c'est hyper intéressant. Ouais.
L'une de vos créations signatures au Plaza Athénée, c'était avec de la poudre de sapin. Oui. Là, au Saint-Régis, vous faites un dessert avec le coin, justement, et du sorbet sapin.
C'est ça, exactement. On travaille avec les bourgeons, donc il nous restait des bourgeons de sapin qu'on a eu au mois d'avril, je crois, mars-avril, qu'on peut pas, une fois que c'est congelé, on peut pas les garder. Donc on les a quand même gardés parce qu'on voulait pas les gaspiller, mais il nous en restait de la carte. Mais vous pouvez les garder, les consommer, mais par contre, visuellement, ça devient vert, très kaki, donc on peut pas forcément les mettre dans l'assiette, même si on n'est pas très dessert, puis on est quand même hors saison. Et on travaille avec vraiment la branche de sapin, épicéa pour le coup. Et c'est un producteur qui s'appelle Fabrice Gabriel qui me les livre, et du coup on fait un sorbet avec ça, donc une infusion, et puis on le mixe à l'intérieur.
Est-ce que nos auditeurs, nos auditrices peuvent ensuite prendre des branches de leur sapin épicéa pour faire le sorbet?
J'allais dire non, moi je pense pas. Après, je pense qu'ils sont traités, ceux qu'on a à la maison. Si on est sûr que ce soit pas traité, oui.
C'est dommage, ça aurait été une bonne façon de les
recycler, ouais, c'est clair,
et
c'est
pas
clair.
Les gâcher,
mais
pas les jeter.
S'ils sont pas traités, non, je pense qu'on peut, mais après je veux pas qu'ils s'intoxiquent à cause de moi s'ils savent pas quoi faire de leur sapin, mais oui, on peut.
Vous avez apporté des petites choses,
oui,
que vous avez posées sur la table devant nous qui nous donnent très très envie, de couleur marron, beige.
On a des choux aux graines de tournesol. Les graines de tournesol, du coup, on les fait torréfier avec des blancs d'œufs, du sel et du poivre. Et ensuite, il y a une pâte de tournesol et une crème à l'intérieur au tournesol. Donc tout est très tournesol, très poivré, assez salé quand même, parce que moi j'adore la fleur de sel, j'en mets un petit peu partout. Et les poivres, c'est pareil, je travaille beaucoup les poivres noirs et les poivres rouges, peut-être un peu moins les verts, mais en tout cas ces poivres-là, j'aime bien les travailler pour que ce soit assez piquant et assez que ça relève quand même pas mal un dessert. Et ensuite, il y a la tarte toute noisette. Donc on fait une pâte sablée avec juste de la farine de noisette. Enfin bon, il y a plein de choses à l'intérieur, mais ensuite il y a un condiment de noisette, donc des noisettes juste fraîches, pas forcément torréfiées, qu'on reçoit et qu'on cuit avec. Enfin après, on y rajoute du lait de noisette, crème à la noisette, pâte de noisette. Enfin voilà, la totale quoi. Et toutes les peaux de noisette aussi.
Et les puchori, il est où?
Et le puchori, on le râpe au dernier moment dessus.
Qu'est-ce donc que c'est alors le puchori?
C'est une épice brésilienne. Je travaille très peu les épices, mais en général, quand je travaille les épices, je vais aller les sélectionner. Je suis un peu voilà, difficile là-dessus. Mais c'est des épices. C'est une épice qui ressemble un peu à une noix de muscade ovale, noire, et qui a un goût vraiment de muscade, de clou de girofle, cardamome noir, enfin voilà, toutes ces saveurs un petit peu fumées.
Bon, voilà de quoi se sustenter légèrement après un repas riche et arrosé d'hiver, par
exactement.
Exemple. Alors, je n'ai pas oublié la dernière question, Jessica Préalpato. Ce serait quoi le dessert de 2025?
Ah, c'est une bonne question. Une petite tarte aux agrumes.
Comme celle que vous nous offrez pour le site internet.
Exactement.
De l'émission. Un grand merci,
merci
pour ça
vous.
Et pour votre venue ce midi. Bonne fin d'année à vous.
Merci, vous aussi. Merci.
Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application Radio France. Merci à Siam Boutata pour la documentation, à Marie Placé pour la réalisation, à Grégory Wallon pour la prise de son. Et excellent dimanche à l'écoute de France Culture.